Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioVallée.
La commune de Grannes trouvait une légitimité à inciter, favoriser et organiser dans un premier temps la réflexion et les échanges sur les possibilités et intérêts d'une gestion garantissant la pérennité du patrimoine forestier qui occupe une part importante du paysage et qui participe à la qualité du cadre de vie. L'objectif étant d'amener les propriétaires à réfléchir ensemble et à s'organiser pour avoir plus de poids dans la filière, pour faire valoir leurs droits et pour décider ensemble du rôle et de l'avenir de la forêt. Après examen et préparation de l'opération en comité restreint, comprenant des représentants de l'ex-direction départementale de l'agriculture et de la forêt, la DDAF, actuellement intégrée à la DDT, du Centre régional de la propriété forestière, le CRPF, et de la commission développement durable de la commune, 4 réunions publiques ont été tenues. À l'issue de cette phase d'information et de sensibilisation, plusieurs dizaines de propriétaires forestiers se sont déclarés intéressés à poursuivre l'opération avec l'intention de créer une ou plusieurs structures de regroupement. La balle a été dès lors dans le camp et dans le champ des missions du CRPF et des propriétaires forestiers volontaires. C'est ce qui va vous être exposé dans ce nouvel opus Biotope par un représentant du CRPF et un représentant de la Commission Développement Durable de la ville de Grannes. Je les laisse se présenter.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Je suis Manuel Boucoulou, je suis de mon état retraité et conseiller municipal d'une commune rurale qui s'appelle Grannes, qui héberge à peu près 1800 à 1900, je ne connais pas le chiffre exact, habitants, une commune assez étendue, et j'ai en charge particulièrement la commission développement durable.
Pierre Tabouret, donc je suis technicien forestier au centre régional de la propriété forestière, Rhône-Alpes. Je suis en poste à Die et je travaille sur l'ensemble de la vallée de la Drôme. Et mon métier consiste à conseiller les propriétaires de forêts privées pour tout ce qui concerne la gestion de l'espace forestier au sens très large du terme, c'est-à-dire que ça peut être des conseils concernant l'exploitation forestière, les problèmes de maladie des arbres, les problèmes législatifs, les problèmes réglementaires, par exemple le développement de la production de champignons sylvestres, dont la truffe, entre autres.
Alors on va peut-être démarrer sur la présentation du contexte.
Le contexte est forestier, naturellement, puisque ce doit être le titre de l'émission. La forêt grannoise, c'est un peu plus de 2000 hectares d'une forêt relativement peu productive, mais ça, si on doit approfondir le sujet, le CRPF sera mieux placé que moi pour en parler, qui appartient à 90% à des propriétaires privés. C'est la moitié à peu près du territoire communal. Et c'est un élément du cadre de vie de ses habitants et que ses habitants reconnaissent comme tels et auxquels ils sont attachés. C'est donc, en définitive, que ce soit pour les citoyens ou pour les élus, un élément du patrimoine communal que le défaut d'entretien et le vieillissement mettent en péril pour les générations futures s'il ne s'y passe rien.
On rebondit sur l'origine et les motivations du projet ?
L'équipe communale a incité les propriétaires forestiers donc à réfléchir ensemble et à s'organiser avec pour objectif principal d'acquérir ainsi plus de poids dans la filière pour mieux faire valoir leurs droits ou pour les faire valoir tout simplement et pour décider ensemble du rôle et de l'avenir de la forêt dans l'intérêt de tous les usagers de la dite forêt.
Alors qui a été le déclencheur ?
Disons l'équipe municipale. Plus particulièrement la commission développement durable, et si je dois dire plus particulièrement, mais j'en tire pas de choses particulières, moi-même, puisque je bénéficie par ailleurs d'une formation initiale quelque peu forestière. J'ai saisi la question. Et puis, j'oublie pas les citoyens parce que il est arrivé qu'un certain nombre de personnes s'offusquent de ce qui s'appelle les coupes rases, c'est-à-dire un paysage suffisamment étendu qui, après abattage, se trouve quasiment transformé en désert au milieu d'une forêt verdoyante. Et ça, ne serait-ce que sur le plan esthétique, ça choque et on retombe sur la préoccupation du cadre de vie des citoyens. Donc la convergence des deux a fait que finalement c'est quelque chose qui s'est monté d'un commun accord citoyen élu.
Donc une décision de s'organiser ensemble, la commune décidant d'animer finalement cette réflexion.
Tout à fait. En ayant pris la précaution initiale de vérifier que l'idée communale était une idée susceptible de donner lieu à une réalisation concrète. Et c'est là que sont intervenus des forestiers en activité, notamment Pierre, pour nous aider à mieux déterminer le mode d'approche.
Pierre, peut-être c'est du coup à cet instant-là qu'on fait appel aux professionnels.
Oui, on est alerté, je suis alerté au cours d'une réunion à la communauté de communes du Val-de-Drôme par Manuel Vaucoulou qui me rappelle donc qu'il y a des problèmes d'exploitation forestière peut-être un peu trop violents sur son territoire et qu'il s'interroge sur les possibilités qu'il y a à offrir aux propriétaires forestiers en termes d'outils, de méthodes de gestion, des modèles plus adaptés un peu aux attentes de la population et des élus. Donc de cet entretien, il en ressort que des méthodes peuvent être proposées, mais il faudrait pour cela que à la fois les propriétaires en soient informés, qu'ils soient partants, qu'ils soient volontaires, et qu'ils aient connaissance des différentes possibilités qui peuvent leur être offertes. Donc c'est vrai que ça a permis, dans un premier temps, d'avoir des rencontres au sein du conseil municipal de Grane, puis de continuer à rencontrer des propriétaires volontaires dans un premier temps, des moteurs potentiels, et d'élargir progressivement le cercle des rencontres jusqu'à s'apercevoir qu'il est possible sur la commune de Grane de proposer un mode de regroupement et un outil de gestion adapté aux besoins des citoyens et propriétaires forestiers.
Ces 2200 hectares de forêt granoise, qui représentent 20% du massif forestier qui constitue l'unité d'approche, c'est des parcelles qui vont depuis la méconnaissance complète de la part du propriétaire, qui ne sait pas où est sa parcelle, jusqu'à des parcelles connues, mais qui peuvent avoir une superficie inférieure à un hectare, et jusqu'à des parcelles qui dépassent les quelques dizaines d'hectares. Donc, à partir de là, on est plutôt dans un registre de propriété résultant de succession, et donc de propriété ancienne, transmise de génération en génération, et dans laquelle propriété, on va de temps en temps couper du bois pour faire des bûches et faire du feu, de temps en temps ramasser des champignons, de temps en temps pas du tout, de temps en temps à la chasse. Bref, autant de parcelles que de propriétaires, bien sûr, mais aussi que d'usages, que de différences, etc. C'était complètement hétérogène. Je pense que Pierre en parlera plus pertinemment que moi, mais en gros, c'est ça. S'il n'y avait pas d'unité d'usage de cette forêt.
Quelque chose à rajouter, Pierre ?
Oui, c'est un problème beaucoup plus général dans la Drôme et dans tout le sud de la France. On devient propriétaire forestier en général par héritage, éventuellement par acquisition, mais on n'est pas gestionnaire de forêt. La plupart des propriétaires forestiers n'ont pas les connaissances, le savoir-faire pour gérer leur forêt. Très souvent, la première chose qu'ils nous demandent dans ce qu'ils nous rencontrent, c'est de leur retrouver un peu l'emplacement de leur parcelle, de leur propriété. Ça traduit bien la difficulté qu'ils ont et l'incapacité qu'ils ont souvent à pouvoir proposer des modèles de gestion. Donc on commence à retrouver les limites approximatives de leur territoire, de leur bien, et après, ensuite seulement, on peut leur proposer des modèles de gestion qui pourraient être adaptés, sachant que pour une forêt donnée, il n'y a pas un modèle de gestion, mais il y en a toute une diversité qui tiennent compte à la fois du peuplement du bois qui est devant nous, à la fois des attentes des propriétaires. On n'est pas obligé de gérer intensivement une forêt, on peut la gérer extensivement, on peut avoir un objectif loisir pour une forêt, on peut aimer la forêt pour aller y chasser, on peut attendre un revenu de sa forêt, on peut la voir comme un paysage devant soi. Donc il y a un très grand nombre de diversités d'approches de la vision de l'espace forestier, Et la difficulté pour nous, c'est d'arriver à trouver des propositions qui soient conformes un peu aux attentes de ces propriétaires et à l'écologie de ces espaces forestiers.
Alors de la première réunion où vous rencontrez les premiers propriétaires, où vous rencontrez aussi bien sûr les différents parties intéressées par cette démarche, vous êtes déjà fixé sur le temps que ça va mettre ou bien ça ne presse pas ?
Écoutez, je vais donner mon point de vue, mais je pense que Pierre peut avoir un point de vue complémentaire ou égal ou différent. Pour ce qui me concerne, par tempérament, j'aurais pensé qu'en un an, l'affaire aurait été bouclée, au départ. Une fois les grandes lignes déterminées, c'est-à-dire qu'il suffisait, entre guillemets quand même, de faire passer de l'information objective, rationnelle, pour que les propriétaires ayant compris ce qu'est la gestion forestière, ils fassent la queue pour signer et adhérer à une association de gestion groupée. En réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. C'est que l'essentiel, de mon point de vue, a été une démarche pédagogique. Et pour faire de la pédagogie, il faut un pédagogue. Et là, ça donne toute la transition, à mon avis, à Pierre, pour expliciter quel est le rôle qu'a joué le CRPF, qui est déterminant. Parce que je dirais en résumé que c'est vraiment un travail d'équipe. Et un travail d'équipe au sens plein du terme, opérationnel. C'est-à-dire que la commune a eu, de mon point de vue, Pierre nuancera s'il le juge utile, son utilité parce qu'elle était quelque part garante d'une certaine orthodoxie d'approche. Il n'empêche que lors de la première réunion publique, parce qu'il y a eu plusieurs réunions publiques, bien sûr, il y en a eu cinq, à la première réunion publique, les présents, qui étaient plusieurs dizaines, assez nombreux, en gros, ont tous exprimé à peu près la même idée, mais qu'est-ce que la commune peut bien avoir derrière la tête pour s'intéresser à notre forêt ? Est-ce qu'il va y avoir une prise, ne serait-ce que partielle, de notre droit de propriété ou pas ? Et il a fallu du temps pour déjà déminer cet aspect-là, puisque la commune n'avait ni le droit, ni l'intention, ni les fondements juridiques pour se permettre, même si elle avait eu l'idée, ce qui n'était pas le cas, d'empiéter sur la propriété privée, mais aussi pour avancer dans la connaissance des vertus d'une gestion forestière pour les générations à venir.
Pierre ?
Oui, mais pour nous, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir la commune comme locomotive dans cette opération. On intervient très peu sur les territoires lorsqu'on n'a pas le soutien de partenaires locaux. Alors ça peut être des personnalités fortes du territoire, ça peut être des élus, ça peut être une association, peu importe. Dans le cas présent, c'était effectivement la mairie qui nous a accompagnés dans cette démarche. Et comme ce sont des sujets qui sont très complexes, on touche à la fois au droit de propriété, à la gestion de l'espace, sur des espaces relativement vastes, que tout le monde a la volonté plus ou moins explicite de s'approprier ou considère comme étant un peu... lui appartenant en partie au moins. Si on n'a pas localement des partenaires pour nous aider, pour nous signaler les choses trappes, les problèmes qu'il peut y avoir sur le territoire, les inimitiés qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, les problèmes qui ont pu se produire jadis sur une coupe de bois, sur un chemin qui a été mal fait, sur une histoire qui s'est mal terminée, en général, on n'avance pas. On a besoin localement d'avoir des gens qui nous aident, qui nous accompagnent. Ça, c'était le premier point. Ensuite, le temps pour nous, pour un forestier, on évolue entre deux pôles. À la fois le pôle de la dimension humaine qui fait que, effectivement, quand on a un projet, on aimerait que l'année suivante il soit tout de suite réalisé parce que le temps presse pour tout le monde. Et en même temps, quand on est forestier, on a l'habitude de travailler à l'échelle des siècles. On nous a appris que pour faire une forêt de chêne, il faut 2, 3, 4 siècles. Donc oui, le temps est important. Des fois, on aimerait aller plus vite. Malheureusement, la dimension humaine est ainsi faite que ces projets où on touche, je le répète, aux droits de propriété sont toujours très lourds à mettre en place. Même quand on a un appui local fort, ça prend un peu du temps. Mais le temps, ma foi, on en dispose. Et si nous, on n'a pas, ceux qui viendront après nous, on disposera encore. On a ce problème-là lorsqu'on veut faire de la desserte forestière. Par exemple, des fois, on essaye d'imaginer d'ouvrir une desserte à l'échelle d'un massif complet. Très généralement, on s'aperçoit qu'on apporte l'information une première année sur le territoire. C'est très mal perçu parce que les gens ont peur. Une nouvelle piste dans la forêt, ça va perturber, ça va modifier les équilibres écologiques, le paysage va changer, tous les braconniers vont se ruer là-dessus pour tuer tous les animaux. Bon, voilà. Dans un premier temps, en général, on a une réaction un peu négative. Et puis on s'aperçoit qu'au bout de 3, 4, 5, 6 ans, parfois, l'idée a fait son cours dans la tête des gens. et qu'on soit les gens viennent nous retrouver, soit on arrive sur un territoire qui est beaucoup plus favorable. Donc, en matière d'animation forestière, on sait que le temps est quelque chose d'assez relatif, et dans le cas de Grand, dans tous les cas, je considère que les choses se sont déroulées assez rapidement, dans d'excellentes conditions en plus.
Donc l'étape de sensibilisation et d'élaboration d'objectifs, ça a demandé combien de temps ?
Alors là, on a eu la chance de pouvoir mettre sur cette opération un élève ingénieur en stage dans un premier temps, qui a fait son mémoire sur cette opération, donc a commencé à établir de la cartographie, à caractériser le milieu, à voir qu'est-ce qu'il y avait comme problème de desserte, quelles étaient les potentialités forestières, enfin bon, faire un travail de fond. On a eu la chance de pouvoir mobiliser des financements, alors toujours grâce aux élus et de la commune et du Val-de-Drôme, mais on a pu mobiliser des financements pour ouvrir un poste à mi-temps pour que l'opération se prolonge et que l'élève qui était devenu ingénieur en titre puisse poursuivre le travail et le mener à son terme. Donc c'est vrai que c'est une opération qui a duré, on va dire, à peu près 2 ans, à peu de choses près. Et encore, on en est actuellement à la phase où le document de gestion va être réalisé. On n'en est pas encore à la phase travaux ou coupe de bois.
Si je peux compléter un tout petit peu un point, c'est que le stagiaire ingénieur forestier a quand même dispensé 7 mois d'appui et de proximité auprès des propriétaires pour répondre à la question, etc. Ça, c'est pour la phase initiale, c'est-à-dire arriver à l'objectif, enfin réussir à parvenir à cet objectif-là, qui était de bien faire comprendre aux gens, bien les informer sur ce qu'est leur forêt, sur les différents aspects de la forêt, sur les vertus de la gérer pour lui permettre de survivre à elle-même, d'évoluer convenablement et d'être propice à tous les usages. Ça a été 7 mois parmi à prendre au début, dans les 2 ans qu'évoquait Pierre.
Yeah. Dresse la nappe, je dresse un tableau noir et tisse la toile pour tresser les nattes des comètes et pisser sur les étoiles. Un puits sans fond et puis sans fin, mon enfance perchée sur des palissades. Explorer toutes les palettes avant que mes yeux ne pâlissent. Tout est fade, alors on explose la planète, expose les termes. La pensée terne de n'être qu'un pigment perdu sur un caillou lancé dans le vide. Naître libre comme pygmées et Touareg, l'esprit nomade sous le poids du réel. J'ai pas la gouache car sur les joues des miens on a trop fait d'aquarelles et des kyrielles de querelles. Alors qu'importe que leur vent m'emporte, si cette colère primaire est notre nature morte. Dresse la nappe, j'invite à ma table vos tristes mines et les repentis. Lorsque tout se dégrade, toutes les mains s'en lavent à la térébenthine. Y'a pas de couleur vernie, y'a pas de mélange, nous sommes l'huile et l'eau. J'trace un chef-d'œuvre sur du ciment esquissé à la sanguine. Dresse la nappe, j'invite à ma table vos tristes mines et les repentis. Lorsque tout se dégrade, toutes les mains s'en lavent à la térébenthine. Y'a pas de couleur vernie, y'a pas de mélange, nous sommes l'huile et l'eau. J'trace un chef-d'œuvre sur du ciment esquissé à la sanguine. Je peins au couteau l'azur et l'usure me pince aux tripes comme le silence.
À partir de maintenant, les propriétaires sont rassemblés en association.
Oui, alors effectivement, ce qui a été proposé finalement, c'est de faire regrouper les propriétaires au sein d'une association syndicale libre de gestion forestière. C'est le terme un peu technique, mais bon, voilà, c'est ainsi. Afin qu'un expert forestier puisse leur proposer des modèles de gestion adaptés à la volonté de chacun, au désir de chacun et aux possibilités des forêts de chacun. Pour en arriver là, il fallait pouvoir offrir des surfaces assez conséquentes regroupées. Il fallait donc une structure de regroupement qui puisse à la fois demander à cet expert d'intervenir et qui puisse aussi mobiliser des crédits. Là, cette fois, c'est la région Rhône-Alpes qui finance l'opération à hauteur de 80%, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a un plan de gestion qui est en cours d'élaboration et qui devrait proposer à chaque propriétaire un modèle de gestion adapté à son territoire, à sa propriété forestière, Et l'ensemble de ces modèles de gestion seront regroupés au sein d'un seul et même document qui permettra de mutualiser des travaux s'il y a des travaux à faire, des coupes de bois s'il y a des coupes de bois à faire, afin d'être plus attractif pour faire appel à des bûcherons, par exemple, ou à des entreprises de travaux forestiers, et afin de suivre au mieux un modèle de gestion qui soit adapté à une gestion durable du milieu.
Au jour d'aujourd'hui, c'est sous contrôle de Pierre, je crois, 42 adhérents pour 518 hectares. Sachant que pour que la chose soit réputée bien démarrée, il fallait agglomérer au départ quelque chose de l'ordre de 300 hectares. Et compte tenu du contexte, ce n'était pas du tout gagné. Et on a eu la bonne surprise de voir que l'idée pouvait se concrétiser. Elle n'aurait pu ne pas se concrétiser. Elle aurait pu rester à l'état d'idée et d'information, ce qui en soi est de toute façon utile. On parlait de la forêt de Grane, mais parmi les adhérents que j'évoquais tout à l'heure, il y a des gens de communes avoisinantes dont la forêt appartient au même massif, en particulier Mirmande, etc. Et puis, l'idée s'est colportée jusqu'à, mais là Pierre en parlera sans doute, jusqu'à une autre commune qui a bien envie de démarrer un peu de la même manière. Et donc, on reste sous la houlette aussi de l'intercommunalité. Mais l'intercommunalité s'est positionnée en soutien, mais pas en initiateur, bien sûr. C'était une initiative communale, mais laquelle commune fait partie de l'intercommunalité, bien sûr.
L'association est constituée. Actuellement, un expert forestier a été nommé et il est en train d'élaborer un programme de gestion propriétaire par propriétaire pour l'ensemble des 500 hectares, on va dire. Lorsque ce document sera finalisé, il sera validé et approuvé, on l'espère, et les propriétaires auront à ce moment-là un outil de gestion à leur disposition qu'il faudra qu'ils mettent en œuvre. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas encore coupé. L'association, les propriétaires forestiers n'ont pas encore coupé un bout de bois, ils n'ont pas encore planté un arbre, ils n'ont pas encore fait un mètre de chemin, si tant est que ce soit utile d'en faire. Voilà. Donc on est quand même en phase de début. Et il y aura la mise en œuvre à réaliser, il y aura un travail d'accompagnement à faire auprès des propriétaires. Il y a toujours de la formation à faire, à proposer aux propriétaires forestiers, parce qu'ils ne connaissent pas tout de la sylviculture, tout de la fiscalité. Donc il y a encore un long chemin à parcourir. Le programme de gestion en plus qui va leur être proposé sera probablement pour une période comprise entre 10 et 20 ans, donc on parle toujours sur du moyen terme. Ensuite, l'idée c'est effectivement d'essayer de consolider ce groupe sur le massif que l'on a appelé le massif de Grane, qui est un massif relativement vaste et sur lequel on espère que des propriétaires voisins pourront un jour rejoindre l'association de manière à boucher les trous qui existent dans le puzzle. Et pour l'instant, on est plutôt à consolider l'existant qu'à vouloir en faire beaucoup plus.
Je me permettrai d'ajouter quelque chose.
Allez-y, Emmanuel.
C'est que il y a eu, dans les toutes premières phases, élaboration par le stagiaire dont on a parlé.
C'était en 2010, ça, Emmanuel?
Ça, c'était du 2009, je crois. Si ma mémoire n'est pas mauvaise, c'est 2009. Hein. C'est 2009, et il y a eu élaboration d'un questionnaire qui a été envoyé à tous les propriétaires forestiers recensés sur le plan cadastral, sur la matrice cadastrale, et il y a eu suffisamment de retours pour que on puisse commencer à exploiter les points d'interrogation et essayer de les lever par la suite. Ça a été un premier recensement. Il y a eu par ailleurs la mise au point d'un certain nombre d'outils pour faciliter la démarche. Il y a eu la méthode, il y a eu des outils de communication, des outils informatiques, des modèles de statut. Et parmi les outils de communication, il y a eu des modèles de LED, des outils de vulgarisation qui ont accompagné les premières étapes, des retours d'expérience, etc. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails, on pourrait vous parler de systèmes d'information géographique adaptés à la démarche, jumelés avec l'exploitation de matrices cadastrales, etc. Mais là, on rentre dans le technique. Mais pour vous dire qu'il y a eu, dans ces phases, des étapes qui se justifient en elles-mêmes, en matière de temps, parce que élaborer le questionnaire, l'adresser, le dépouiller, en faire la restitution aux intéressés volontaires et aller plus loin, en soi, c'est quelque chose qui se traduit en quelques mois. Ça ne se traduit pas du jour au lendemain.
Et en termes humains ?
En termes humains, je crois que j'ai rien à ajouter au qualificatif qu'a employé Pierre. On était sur l'humain, donc il y a eu de la confiance. S'il n'y avait pas eu de confiance, je pense que quel que soit l'intérêt technique de la démarche, elle aurait complètement avorté.
Maintenant, je parlais par rapport à la mise en place de la méthode et des outils. En termes humains, ça représente beaucoup de monde, beaucoup de...
Ça représente quasiment du plein temps pendant, ne serait-ce que la mise au point du questionnaire, je pars sous votre contrôle, Pierre. C'est quelque chose qui a dû demander un mois, montre en main, pour déjà faire la première mouture, le premier esquisse de questionnaire. Ensuite, confronté à l'avis de gens comme Pierre, à l'encadrement du CRPF, à l'avis de la commune, pour arriver au questionnaire à peu près stabilisé, qui ensuite est envoyé, ensuite est dépouillé. Hein. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question, mais ça donne une idée peut-être de l'investissement et du temps consacré à ça.
Complètement.
On peut dire que ça représente quasiment un mi-temps sur deux à trois ans.
Voilà.
Un mi-temps d'ingénieur dans le cas présent.
Voilà, donc les trois ans qui ont été nécessaires pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Voilà.
Alors c'est vrai qu'il y a un ensemble d'outils qui ont été élaborés, il y a une méthode qui a été construite, et s'il fallait le transposer sur un autre secteur, ça irait aujourd'hui beaucoup plus vite. Mais là où on peut guère faire d'économie de temps, c'est sur l'humain. C'est vrai que les outils informatiques, une fois qu'ils sont faits, après on les réutilise, ça va très vite.
Alors ce qui va nous amener gentiment au mot de la fin, à la conclusion... tant par rapport aux perspectives et peut-être un regard rapide sur le temps qu'il est nécessaire de prendre encore pour que ce projet-là soit, on va dire, finalisé, que voilà, ça roule, comme on dit.
La finalité sur le projet, je dirais qu'on a fait le plus dur quelque part, c'est-à-dire que la structure est en place, le modèle de gestion est en cours de construction et la phase de réalisation active va se mettre en place, je pense, à partir de l'an prochain. C'est une association qui est née, la réalisation se met en place, le plus dur est réalisé, je pense. Les gens vont avoir à leur disposition un modèle de gestion qui leur planifiera un petit peu des possibilités sur les 10 ou 20 prochaines années. Bon, voilà, maintenant, il faudrait arriver, l'idéal serait de pouvoir agrandir un peu les surfaces concernées par cette démarche. Mais en ce qui me concerne, j'ai l'impression que le gros du travail, le gros des difficultés sont derrière nous. Après, il y a les problèmes techniques, mais la technique, c'est pas quelque chose qui me fait vraiment peur. C'est pas compliqué.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.